Renault.
L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente » Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Care Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Care Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Source l'Automobile Magazine 2023.
RMC jusqu'à 8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 7h10, c'est RMC. Bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est avec énormément de plaisir qu'on passe cette matinée ensemble de dimanche, en ce 19 février 2017, avec au menu tout à l'heure, à partir de 8h, l'automobile. Jean-Luc Moreau sera là. Son bon plan auto, peut-on avoir une vignette même pour les véhicules d'avant 1997? L'essai de la semaine, ce sera la Peugeot 5008, c'est un gros morceau. Et puis, en deuxième partie de notre rendez-vous auto, on s'intéressera à la voiture autonome. On en parle de plus en plus de cette voiture qui se conduirait toute seule ou quasiment toute seule. Où en est-on? Est-ce que les automobilistes sont prêts à se laisser guider par l'électronique? Et que dit la législation? Est-ce qu'on a le droit aujourd'hui de se laisser conduire par une voiture autonome? On verra ça tout à l'heure avec Jean-Luc Moreau. Et on découvrira aussi le SIAM, qui est un salon d'automobile qui vient d'ouvrir ses portes à Monaco pour sa première édition.
Alors moi, je connais certains qui se laissent conduire par un chien autonome quand ils le promènent.
Oui, et c'est un chien de marque Husky.
Voilà.
C'est ça, hein? Et oui, c'est vrai que c'est différent. Hein, ça marche pas dans toutes les régions en revanche. Hein, ça, il fallait plutôt du côté du froid. En tous les cas, Laetitia Barlerin m'accompagne pour cette deuxième partie dédiée aux animaux. Vous pouvez la joindre au 3216, posez votre question 3216 ou animaux@rmc.fr. Laetitia, on va parler maintenant des chiens. À l'école.
Eh ben oui. Et pourquoi? Pour prévenir les morsures. Et nous sommes avec Chantal Hazard, qui est formatrice et intervenante en médiation animale, présidente de l'association PECRAM, qui veut dire Programme d'éducation à la connaissance du chien et au risque d'accident par morsure. On va voir ce que ça veut dire avec Chantal, qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être matin à l'antenne. Bonjour Chantal.
Bonjour.
Alors, vous êtes une retraitée de l'éducation nationale et vous avez imaginé un programme d'éducation à la connaissance du chien, destiné aux enfants de 4 à 10 ans. Alors pourquoi ce programme?
Pour sensibiliser les enfants à la relation responsable avec l'animal.
C'est-à-dire?
Pour apprendre de manière ludique et citoyenne aux enfants les bons gestes, les bonnes conduites avec les chiens. Car souvent les catastrophes arrivent parce que l'enfant n'a pas appris à connaître le chien, à comprendre ses réactions et ainsi à mieux vivre avec lui. Et c'est pour ça que je voulais faire ce programme, pour vraiment changer les choses et pour respecter à la fois l'enfant et l'animal dans leur relation.
Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de morsures qui sont dues par exemple au fait que l'enfant qui ne connaît pas le langage, bien souvent l'enfant de bas âge, qui ne connaît pas le langage canin, quand il voit un chien, soit il se précipite sur le chien pour le caresser comme une peluche, soit il en a très peur, donc du coup il a des comportements qui sont à risque de panique, qui peuvent aussi induire un comportement aussi à risque du chien. Vous dites que éduquer l'enfant, c'est protéger l'enfant, mais c'est protéger le chien aussi.
Absolument, parce que quand l'enfant aura compris les bons gestes avec le chien, il sera en conduite plus sécuritaire avec lui et il apprendra à mieux le respecter, à mieux l'aimer. Et donc, le chien se trouvera de même protégé, car on n'a jamais appris aux enfants à comprendre le chien. Or, si on ne comprend pas un être, on ne peut pas l'aimer. Et en comprenant le chien, il l'aimera, et donc ils vivront en meilleure relation, et je suis sûre qu'avec ça, il y aura moins d'abandon aussi. Il faut absolument pouvoir faire de nos enfants des ambassadeurs, à la fois auprès des adultes d'aujourd'hui, pour faire changer tous les comportements, pour faire comprendre ce qu'est le chien, et pour que les enfants, une fois adultes, soient responsables eux aussi demain. Ah oui, avec tous les chiens.
C'est vrai que
propriétaires de chiens.
Il y a beaucoup de chiens qui mordent des enfants qui sont euthanasiés aussi, il faut le savoir.
Absolument, absolument. Après, ils sont euthanasiés alors que les trois quarts du temps, ils ne sont pas responsables.
Alors, par exemple, c'est tout bête, mais un chien qui montre les dents, alors nous,
absolument,
adultes, on sait que là, vaut mieux pas approcher le chien, alors qu'il y a des enfants qui comprennent pas le langage canin et qui disent, ils montrent les dents, donc ils sourient.
Absolument. parce que on a fait cheese sur les photos, tous les enfants ont appris à faire cela. Et donc, par mimétisme, ils croient que l'enfant, le chien qui montre les dents est un chien qui sourit. Et en fait, c'est un chien dangereux. Et il y a plusieurs comportements comme ça. L'enfant, le chien qui appelle au jeu, va bouger un petit peu, va faire un peu de bruit. L'enfant va s'en méfier alors qu'il l'appelait au jeu. Et alors que le chien qui est calme, qui ne bouge pas et qui a la queue entre les pattes, qui est bien raide, est prêt peut-être à intervenir, mais comme il ne fait aucun bruit et qu'il ne bouge pas, l'enfant ne s'en méfie pas. Et donc il a les conduites inverses aux bonnes conduites, parce que simplement on ne lui a pas appris. On ne lui a pas appris, c'est vraiment très important. Beaucoup de pays ont développé ces programmes depuis plus de 20 ans. Et en France, nous, on n'a jamais développé ces programmes.
C'est vrai.
C'est vraiment un programme très, très important. Et une fois qu'on a appris ces bons gestes, les relations changent, le regard change. Et c'est aussi un programme citoyen, parce qu'on apprend que ramasser, c'est normal, que c'est une relation normale. Et je voudrais citer cela parce que j'en suis absolument persuadée. Si l'enfant, on va dire à un adulte, ah, la dame du chien a dit qu'il fallait ramasser, monsieur. Ce sera beaucoup plus efficace que les 35 euros de contravention. Parce que dans les 35 euros de contravention, ça finit toujours par se reporter contre le chien et d'être la faute du chien, alors que ce n'était pas du tout sa faute. On ne peut pas, je insiste bien là-dessus, aimer un être qu'on n'a jamais appris à comprendre. Dans aucune relation sociale, c'est possible. Et donc là, c'est vraiment important. Et il était temps que la France se mette à avoir un programme national, parce que je développe ça partout.
Oui, alors vous formez. Alors vous formez des professionnels du chien.
Oui. Oui.
Qui interviennent dans des classes avec leurs chiens, c'est ça? Alors comment ça se passe en pratique?
Donc je forme essentiellement des professionnels du chien, bon, parfois des professionnels de l'éducation qui ont déjà une relation avec le chien depuis longtemps, vous voyez, pour que tous les acteurs puissent être pris en compte. Ils interviennent en classe ou dans le domaine périscolaire. Parce qu'il faut savoir qu'actuellement, nous avons une porte d'entrée énorme avec ce qu'on appelle les TAP, c'est-à-dire les temps d'activité périscolaire.
Oui, l'après-midi.
L'après-midi ou le vendredi. Et donc, ils sont donnés à la mairie, c'est eux qui s'en chargent. Donc, nous ouvrons deux portes. Soit les professionnels, une fois formés pendant les deux jours et diplômés, enfin, avec l'attestation de formation, vont voir les mairies et entrent dans le cadre périscolaire. La méthode que j'ai créée est faite pour ça.
Et alors, concrètement, comment ça se passe dans la classe?
Donc, soit en classe. Donc, concrètement, dans la classe, les intervenants, si c'est dans le domaine périscolaire, ils interviennent pendant 6 semaines en suivant pendant 1 heure. Le programme a été séquencé pour pouvoir intervenir comme ça. Et ils interviennent soit comme ça, soit en classe, par séance de 2 heures à ce moment-là, ou un peu moins si ce sont des petits, on s'adapte aux âges. Et ils interviennent avec ou sans chien, selon que la structure veut bien faire le programme, veut bien faire cette éducation, mais pas avec la présence du chien, ce qui est quand même assez rare, parce que le chien apporte cette présence un peu...
Ouais, les enfants, ils aiment bien les chiens quand même.
Donc on est au maximum.
Et qu'est-ce que fait le formateur?
Le formateur, l'intervenant, intervient, donc il explique les bons gestes. On a des petits films, on a des photos, on a des jeux de rôle. Les bons gestes pour comprendre le chien, comprendre ses postures et surtout comment apprendre à caresser un chien, à le croiser dans la rue, à ne pas se précipiter sur lui. Parce qu'en général, tout ce qui se fait naturellement, c'est le contraire de ce qui doit se faire parce qu'on n'a pas appris. Je dis toujours aux gens que je forme, c'est pareil que l'éducation routière. Un enfant à 3 ans ne sait pas qu'il faut traverser au passage piéton si on ne lui dit pas. Ben là, c'est exactement la même chose. Donc, on apprend les bons gestes. Comment caresser un chien? Comment ne pas se précipiter sur lui? Demander à son propriétaire. Il y a des gestes qui ont été répertoriés, qu'on appelle faire l'art, faire la pierre. C'est-à-dire, ce sont deux gestes qu'on va apprendre à tous les enfants, même ceux qui sont phobiques grâce aux peluches. Comment faire quand un chien nous agresse au parc ou etc. Et donc, comment vivre dans la maison avec lui? Comment pas aller le réveiller parce qu'on arrive de l'école et qu'on veut aller le caresser alors qu'il dort? Tous les comportements qui peuvent être à risque et qui peuvent devenir des moments de plaisir si on sait comment les prendre.
Merci beaucoup, Chantal.
Merci, voilà. Chantal, c'est très intéressant. Donc, c'est un programme que vous proposez. Voilà, vous formez des professionnels du chien pour qu'ils interviennent dans les écoles partout en France. Ça s'appelle PECRAM. Nous mettrons le lien, bien sûr, de ce programme sur Facebook. Et c'est vrai que si vous êtes enseignant, si vous êtes intéressé, ou même si vous travaillez dans les mairies, ou même si vous êtes parent, vous pouvez contacter cette association pour qu'elle intervienne dans les écoles, dans les classes, pour apprendre aux enfants à le langage canin.
À appréhender l'animal.
Et avoir des comportements qui ne soient pas des comportements à risque par rapport aux chiens, pour éviter bien entendu les morsures.
Merci beaucoup. beaucoup Chantal. On va revenir dans un instant, Laetitia, 7h19. On va découvrir le plus grand centre de soins de la faune sauvage de France en danger.
Oui, il se trouve en Bretagne. Ça s'appelle Vol de Piaf. J'adore ce nom. Et c'est vrai que il a besoin quand même d'un peu d'aide en ce moment.
Voilà, on va en parler dans un instant avec Didier Masli qui sera là. Et puis, je vous rappelle que tout à l'heure, on évoquera aussi ces dauphins qui se sont échoués sur nos côtes. On va essayer de comprendre pourquoi. Et puis tout à l'heure, on découvrira Fine. Fine, ça va être l'une des stars du Salon de l'Agriculture de cette année.
Voilà, c'est celle qui est sur la fiche officielle du Salon de l'Agriculture. Vous voyez une vache noire et blanche, c'est Fine.
Eh bien voilà, on en parlera tout à l'heure, on aura son éleveur. 3216, animaux@rmc.fr. N'hésitez pas à nous appeler, à tout de suite.
RMC, 6h-8h, vos animaux. RMC, 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Nous sommes de retour, c'est RMC, bon dimanche à vous toutes et à vous tous et merci à vous qui venez peut-être de nous rejoindre et comme à chaque fois je salue tous ceux qui travaillent en ce dimanche matin qui sont nombreux, les professions médicales mais aussi toutes les personnes qui travaillent dans la surveillance, les commerçants et les chauffeurs de taxi, de VTC etc. On sait que vous êtes très nombreux à nous écouter, on vous salue. Laetitia, on va découvrir maintenant cette association Volée de Piaf.
Volée de Piaf, oui. Nous sommes avec Didier Masli, qui est fondateur de cette association. C'est un centre de sauvegarde de la faune sauvage à Languidic. J'espère que je prononce bien le nom. C'est dans le Morbihan, en Bretagne. Et qui est menacé de fermeture. Alors Didier Masli, bonjour.
Bonjour Didier. Bonjour Laetitia, bonjour François, bonjour à tout le monde.
Alors vous avez créé il y a 10 ans votre centre de soins, qui est quand même devenu le plus grand centre en France, qui s'occupe de la faune sauvage, des soins de la faune sauvage. C'est le seul en Bretagne aussi habilité à recevoir à la fois des mammifères, des oiseaux continentaux et des oiseaux marins. Et il peut y en avoir en Bretagne. Alors d'abord, dites-nous un peu, racontez-nous l'histoire un petit peu de Volée de Piaf. Comment est né Volée de Piaf ?
Volée de Piaf est né en 99, après l'Erika. Donc, j'étais sur un petit port à Etel et en donnant un gros coup de pied dans une boule de fioul, je me suis aperçu que c'était un guillemot qui était vivant et complètement englué. Et donc à partir de ce moment-là, donc ma vie a complètement basculé. Donc faut savoir que j'ai 61 ans, donc en 2000, j'en avais un petit peu moins, mais ça faisait déjà plus de 30 ans que j'étais végétarien, donc vraiment touché par les animaux.
Oui.
Et là, je me suis rapproché d'une association, Bretagne Vivante, qui avait monté un centre de démazoutage, et je me suis, ma vie a basculé vers le nettoyage des animaux, vers la protection, des oiseaux, et vers la protection. Ensuite, il y a eu en 2000, je suis parti aussi bénévole en Afrique du Sud pour démazouter des manchots, où là, il y avait quand même 40 000 manchots du Cap qui étaient mazoutés. 2003, on a eu le Prestige. Mm-hmm. Et après le Prestige, j'ai dit...
J'ouvre mon centre.
Je peux pas rester comme ça.
Et vous avez ouvert votre centre. Alors quand même, il a beaucoup de succès, entre guillemets, dans le sens où vous recevez beaucoup d'animaux. Oui. Quelle est sa capacité d'accueil et combien d'animaux soignez-vous dans l'année ?
Alors l'année dernière, on a accueilli 3030 animaux.
Ah oui ?
Voilà, ce qui est relativement énorme.
Alors, vous avez quoi comme...
On avait commencé en janvier avec 50% d'augmentation par rapport à la même époque de l'année dernière, ce qui est énorme, quoi. Et c'est vrai que on a une chance... les gens vraiment nous font confiance, les vétérinaires nous font confiance. Donc on a des animaux qui arrivent de toute la Bretagne, on a des appels de partout.
Oui.
Et comme on est ouvert depuis 10 ans, faut dire qu'on est ouvert 7 jours sur 7.
Ah, d'accord.
Il n'y a pas eu une seule journée où le centre a été fermé en 10 ans. Et c'est vrai que les gens peuvent nous appeler n'importe quand, ça soit les pompiers, la gendarmerie, les particuliers, on a des appels tous les jours.
Mais comment vous êtes tout seul? Enfin, vous avez des bénévoles, comment vous fonctionnez? Qui s'occupe des animaux sauvages?
Alors au début, il y avait ma compagne et moi, mais la première année, on avait accueilli 225 animaux, ce qui était pas beaucoup, mais déjà pas mal.
Bah, c'est
deux.
Pas mal déjà, oui.
Ouais, et puis ça a été crescendo, 225, 450, 900, 1400, enfin c'est là, voilà, pour arriver à 3030. Donc on a des volontaires en service civique, qui sont vraiment des filles absolument fabuleuses, je dis des filles, parce que jusque-là on a eu quasiment que des filles, on a eu
un gars. Ah bon, bah alors messieurs
Ah ouais, en l'espace de 6 ans, donc on a eu 35 volontaires en service civique.
Oui.
Et on a eu un garçon.
Ah. Tiens. Bah tiens.
Voilà.
Pourtant
quoi.
C'est parce que quand même c'est vous enfin certaines
donc on a
personnes
des volontaires
peuvent
en
voilà.
Service civique. Oui. L'année dernière, on a embauché une ancienne volontaire en service civique en contrat aidé à plein temps.
Oui.
Et une ancienne volontaire en service civique en contrat aidé à mi-temps.
D'accord.
Mais
ah oui, quand même.
Le problème c'est que ces deux contrats vont s'arrêter.
Oui.
Et puis bah il va falloir reformer quelqu'un d'autre, enfin c'est un peu la panique.
Oui, parce que
à chaque fois, tous les ans, il faut reformer des gens.
Parce que un centre de soins, le but du centre de soins de la faune sauvage, c'est vous recueillir, enfin, on vous amène des animaux blessés, oui. Malades, etc. Vous les remettez sur pied et vous les
sur pattes.
Sur pattes même. Ouais. Oui, sur pattes.
Oui, on les remet sur pattes.
Vous
et
les remet.
On essaye de les relâcher.
De les relâcher.
Voilà. Donc on en relâche à peu près la moitié, malheureusement pas plus, hein, puisque.
Et l'autre moitié reste chez vous alors.
Non, il y en a beaucoup qui meurent. Bon, on en a qui arrivent, qui meurent en arrivant, qui sont des fois morts quand les gens nous les amènent pendant le trajet, ils meurent. Il y a tous ceux qui, malheureusement, pour lesquels on ne peut absolument rien faire. Et là, on a la chance d'avoir des vétérinaires assez fabuleux, puisqu'en 10 ans, il n'y a pas un seul vétérinaire de Bretagne qui nous a fait payer un acte vétérinaire.
C'est formidable.
Alors justement,
mais déjà 50% de d'oiseaux sauvés, c'est énorme.
Ici, à Landivisiq, sont exceptionnels de ce côté-là.
Mais faut le souligner.
C'est vraiment super.
Bah alors justement, on parle d'argent.
Alors
ça fait une semaine, peut-être une semaine, que votre volet de Piaf, votre association, ne reçoit plus aucun pensionnaire. Dites-nous pourquoi.
Parce que là, justement, on a, si vous voulez, c'est assez compliqué. C'est que moi, je suis artisan. Donc c'est moi qui ai acheté tout le terrain, enfin tout ce qui, tout le lieu, il y a 10 ans pour créer ce centre de soins.
Mmh.
Et le problème, c'est que comme on n'a pas assez de finances, je suis 90% du temps sur le centre de soins bénévole.
Oui.
Et 10% dans mon atelier.
Oui, vous en sortez pas.
Bah, c'est même pas qu'on s'en sort pas, c'est que comme je ne travaille pas, j'ai pas de rentrée financière. Donc là, on est pris à la gorge, on peut plus payer les crédits.
Mais alors, ce que vous déplorez, et ça, je suis vraiment d'accord avec vous, c'est que vous êtes d'utilité publique, parce qu'il n'y a pas d'autres, il y a que les centres de soins comme le vôtre qui accueillent les animaux sauvages.
Oui, on accueille tout ici.
Et vous n'avez pas de subvention.
En ce moment, on a donc on a des oiseaux, on a deux écureuils, on a 40 hérissons, on a donc le bébé phoque. On a chevreuil, on a toutes les espèces. On a eu 200 espèces différentes qui sont arrivées l'année dernière.
Et pas de subvention ?
Bah, très très peu de subvention. On a eu 5 000 € du conseil général, enfin conseil départemental l'année dernière. Et puis on a un député, Philippe Noguès, qui nous aide depuis 4 ans avec la réserve parlementaire et qui nous donne 2 500 €.
Et heureusement que les vétérinaires sont là pour vous aider, on l'a bien compris. Hein, aussi.
Pardon ?
Heureusement que les vétérinaires sont là pour vous aider.
Oui, et puis les particuliers.
Les particuliers aussi.
Les particuliers depuis 10 ans nous suivent. On a 600 adhérents à travers la France. Les adhérents viennent de 54 départements différents, donc c'est quand même assez super. Et puis bon, c'est vrai que les particuliers nous suivent. Là, on le voit bien encore cette année avec l'arrêt possible du centre de soins. On a eu des appels de partout, des chèques de partout.
Didier, comment on peut vous aider rapidement?
Alors, il y a deux choses. Il y a le site internet et puis il y a la page Facebook. Dessus, il y a des lettres à envoyer, des lettres type à envoyer au conseil général, conseil départemental.
Pour vous aider.
Il y a des
bons
d'adhésion, il y a une cagnotte, il y a notre adresse et c'est vrai que on veut pas fermer. De toute façon,
vous êtes indispensable, hein, en Bretagne. Donc, je vous invite vraiment, on va mettre
Volet
le lien.
Volet de Piaf.
Voilà, Volet de Piaf, c'est l'association, c'est le centre de soins, le plus grand centre de soins, de la faune sauvage en France. Il est en Bretagne et nous mettrons, les liens, bien sûr, l'aider, pour écrire ou donner un don, tout simplement.
Laetitia, bientôt 7h30, on revient après la météo et les infos. On va parler de dauphins et on va parler de vaches avec l'une des stars du Salon de l'Agriculture.
Eh bien oui, on prépare le salon, là.
Évidemment, évidemment. À tout de suite.
Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook, Vos Animaux sur RMC. RMC, 6h-8h, Vos Animaux, François Sorel, Laetitia Barlera.
Il est 7h33, c'est RMC, le week-end des experts, les animaux, avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin qui m'accompagne jusqu'à 8h. Et puis juste après, ce sera Jean-Luc Moreau. Comme tous les dimanches, vous le savez, Jean-Luc Moreau m'accompagne entre 8 et 10 pour vos questions automobiles et toute l'actu liée à l'auto. Laetitia, tout à l'heure, donc, on l'a dit, on va découvrir Fine, la star du Salon de l'agriculture. Ce sera dans quelques instants. Mais auparavant, on va évoquer les dauphins.
Et oui, parce que la semaine dernière, il y a environ 90 dauphins qui se sont échoués sur les côtes vendéennes et en Charente-Maritime. Et nous sommes avec
90.
Mathieu Autier, qui est ingénieur de recherche à l'Observatoire Pélagis. Mathieu, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, est-ce que l'échouage massif comme ça de dauphins est exceptionnel sur nos côtes ?
Alors, on va dire, l'épisode qu'on a eu en février était effectivement exceptionnel parce qu'il était très, très concentré sur quelques jours.
Oui, c'est vrai.
Qu'on a eu, en fait, le week-end du 4 février, en fait, on a eu à peu près une centaine d'animaux qui ont été signalés sur... deux ou trois jours, enfin plus d'une centaine en tout cas, et c'est assez exceptionnel. On n'a pas souvent autant d'animaux qui arrivent sur en même temps, on va dire, sur les plages françaises. Et donc en ça, c'est exceptionnel. Après, on a quand même sur le littoral atlantique tout au long de l'année, il y a des échouages d'animaux.
Oui.
Donc, on a à peu près 500 animaux par an.
Oui.
Mais
oui.
Là, on a vraiment eu énormément d'animaux en même temps sur une toute petite période.
Alors, est-ce qu'on connaît aujourd'hui la cause de cette hécatombe ? On peut parler d'hécatombe quand même.
Alors là, en fait, on a eu effectivement un nombre assez important, puisqu'on a eu à peu près 190 animaux.
Ah oui.
Et pour beaucoup de ces animaux, donc c'était très concentré aussi géographiquement, puisque c'était principalement les départements de Charente-Maritime et de Vendée,
oui,
où on a eu tous ces animaux qui sont arrivés. Et c'était pour beaucoup, en fait, pour les autopsies qu'on a pu réaliser,
oui,
avec nous à l'Observatoire et nos correspondants du Réseau National d'Échouage, puisqu'on travaille avec un réseau de volontaires qui, oui, vont faire des examens sur les carcasses. Donc c'était des animaux qui étaient plutôt en bonne santé. Ils arrivent, donc ils sont déjà morts, hein. Ils arrivent sur nos côtes, ils sont déjà morts. Et là, c'était des animaux qui étaient plutôt en bonne santé. Avec
qui étaient morts déjà, hein, qui n'étaient pas vivants.
Oui, ils étaient morts. Mais après, quand on a fait les autopsies, il n'y avait pas de pathologie particulière.
Oui, pas de virus qui expliquerait
donc, en fait,
une épidémie.
Pour qu'on comprenne bien, ils sont morts en mer et après ils s'échouent sur les côtes, c'est ça ?
Oui, exactement.
D'accord.
Et ils sont morts de quoi alors ?
Alors là, en fait, pour beaucoup, c'était en fait, ils portaient des marques de capture accidentelle dans des engins de pêche.
Dans des filets ?
Ça peut être dans des chaluts. En fait, ces animaux, donc là, c'était pour beaucoup, enfin, l'espèce concernée, c'était du dauphin commun.
Oui.
Et en fait, le dauphin commun va manger des proies qui sont au même endroit, qui se situent au même endroit où vont les bateaux de pêche qui ciblent certaines espèces commerciales. Et en fait, après, il peut y avoir des prises accidentelles. Les pêcheurs ne veulent pas attraper les dauphins. Et les dauphins sont sur zone également et il peut y avoir des accidents, donc des dauphins qui se retrouvent dans les filets. Et on peut le voir, ça, par des marques de capture qui sont très caractéristiques, comme des animaux qui ont le rostre, donc c'est le bec qui est cassé. C'est quand donc le filet est redéposé sur le bateau. L'animal est déjà mort. Hein. L'animal est mort dans le filet en général. Donc,
il est mort noyé, c'est-à-dire, c'est ça ? Il meurt de quoi là, dans ce cas précis ?
Alors, il meurt. Donc, les études qui avaient été menées sur justement les interactions, l'animal meurt noyé. Enfin, il est même mort avant. Il est dans le filet. Il n'arrive pas à ressortir en fait.
Il est pris au piège.
Des proies, il n'arrive pas à ressortir. Et en fait, il va y avoir énormément de bruit et ça le stresse énormément. Et ils peuvent mourir d'arrêt cardiaque aussi.
Ah oui, il meurt de stress en fait.
Il meurt de stress et puis donc quand ils sont remontés, ils sont déjà morts. Ça ne sert à rien d'essayer de les sauver.
Mmh. Mais attendez, la loi oblige quand même les professionnels à signaler les dauphins pris dans les filets.
Alors, il y a un programme de déclaration volontaire.
Mmh. C'est pas obligatoire
après, c'est normalement si, mais après c'est pas forcément fait. Mmh. Et donc là, en fait, ce qui s'est passé, ça a été la conjonction de ces événements de capture accidentelle et ensuite les tempêtes qui ont touché le littoral, qui ont ramené en fait en même temps tous les animaux.
Ah oui, en même temps. Donc, mais est-ce qu'il y a quand même des méthodes de pêche respectueuses des dauphins ?
Alors, on pourrait penser à effectivement, travailler avec les professionnels à pouvoir mettre en place, on va dire, des mesures de mitigation. Mm-hmm. Après, il faut bien se rendre compte que le risque zéro n'est pas atteignable ni souhaitable. Donc, pour maintenir aussi que les pêcheurs puissent maintenir leur activité. Par contre, on pourrait effectivement penser à chercher comment minimiser ce risque de capture accidentelle. Et donc là, c'est un travail à mener avec les professionnels et à mener en concertation. C'est-à-dire qu'on ne peut
sûr.
Pas non plus...
On ne peut pas leur imposer, bien sûr. Mais je pense qu'il en existe et ça serait même une plus-value pour leurs poissons en disant qu'ils font une pêche respectueuse des dauphins.
Oui. Et ben après, il faut il faut renouer le dialogue avec les professionnels. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut pas non plus complètement stigmatiser une profession.
Non, mais
oui,
là, on a effectivement un problème et un événement qui a été très marquant cette année, sachant que c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans le passé. Nous, on suit avec le réseau national d'échouage sur l'ensemble des côtes françaises. C'est, on va dire, le septième événement de cette nature depuis les années 90, où on a énormément d'animaux sur une petite fenêtre temporelle qui arrive sur les côtes. Donc, en fait, cette pression, elle existe depuis un moment. Et c'est vrai que ce qui devient critique, c'est de pouvoir, la corriger, en tout cas, la prendre en compte de manière satisfaisante.
Bah, c'est-à-dire qu'on va ouvrir justement les discussions suite à cet épisode. Alors justement, pour revenir au réseau national d'échouage, vous vous tenez prêt à intervenir à tout moment s'il y a un animal, un mammifère marin qui s'échoue. Les dauphins étaient morts, mais il arrive que le mammifère marin ne soit pas mort. Est-ce qu'on peut encore le sauver quand il échoue sur la plage?
Oui, c'est beaucoup plus rare en fait chez nous des échouages d'animaux vivants par rapport à d'autres régions du monde. Et souvent, en fait, ce qui se passe, donc, quand ce sont des petits delphinidés, là, comme le dauphin commun, souvent, en fait, les animaux qui viennent s'échouer sur la plage, là, ils viennent s'échouer vivants, ils ont souvent, en fait, des pathologies, justement. Mmh. C'est pas, c'est déjà révélateur.
Ils sont faibles,
là. Donc, on peut essayer de les renflouer. Souvent, en fait, ils se rééchouent un peu plus loin, ou on les retrouve quelques jours plus tard, morts, échoués. Donc, en fait, les échouages d'animaux vivants, souvent, ça traduit déjà que l'animal ne va pas bien. Mmh.
Vous savez que la semaine dernière, il y a eu plus de 400 baleines qui se sont échouées en Nouvelle-Zélande sur la plage. Elles étaient vivantes. Enfin, je sais que vous ne vous occupez pas des autres échouages, mais est-ce qu'on a une idée de la raison?
Oui, de ce qui s'est passé.
Ou des hypothèses, parce qu'il n'y a pas que les filets de pêche.
Non. Alors là, c'était des globicéphales.
Oui.
Qui se sont échoués en Nouvelle-Zélande. Donc en anglais, c'est pilot whale. Mais ce sont aussi des dauphins, hein, les globicéphales.
Oui.
Ça appartient à la famille des dauphins, pas des baleines.
Ah oui, d'accord.
Et, c'était plutôt de l'ordre de 600, si j'ai bien compris, en Nouvelle-Zélande, puisqu'il y a eu deux événements aussi. Mm-hmm. Il y a eu un premier groupe de 400 individus, puis un deuxième qui s'est échoué un peu plus après. Et donc là, en fait, il n'y a pas vraiment d'hypothèse. Ça serait beaucoup lié à la géographie du site, en fait, qui est donc là où a eu lieu l'échouage. Cette plage, c'est un endroit qui est, on va dire, avec de faibles profondeurs.
Et donc, les animaux se sont piégés, en fait, c'est ça?
Voilà, ils ont été piégés par la marée.
C'est incroyable.
Et en fait, ils se guident avec un système de sonar. Ce système fonctionne beaucoup moins bien. À faible profondeur, en fait, ils doivent avoir un signal beaucoup moins clair. Mm-hmm. Et comme ce sont aussi des animaux sociaux, si, on va dire, les leaders se trompent, ils vont suivre les leaders quand même.
Ah oui.
Donc c'est là... comme... C'est, oui, voilà, ils se sont retrouvés piégés, perdus, et ils n'ont pas pu retourner au large. C'est ça?
Alors, on pense que c'est ça. Après, moi, je... C'est pas exactement ce qu'il en retourne. Mm-hmm. Et là, c'est vrai que c'était un épisode extrêmement impressionnant puisque c'était au départ 400 individus vivants qui se sont échoués. Il y en a 300 qui sont morts parce qu'après aussi, une fois sur Terre, bah, c'est pas leur milieu. Donc, ils souffrent énormément. Ils peuvent aussi, leur propre poids les écrase par rapport à lorsqu'ils sont dans l'eau.
Oui.
Donc, il faut intervenir assez rapidement. Il ne faut pas qu'ils se déshydratent. Il faut pas que
et en plus, ce sont des animaux qui sont gigantesques. Donc,
mais c'est vrai.
Donc,
mais
c'est compliqué. Oui, même c'est... pour nous, il faut des structures pour les remettre à l'eau.
On parle aussi souvent de pollution sonore. de sonar, qui aussi perturbe un peu le GPS de ces animaux et qui peut les pousser à s'échouer.
Oui, alors on en parle. C'est difficile à mettre en évidence de manière certaine. Après, il faut pouvoir aussi. Là, je ne sais pas si c'est ce qui s'est passé.
Non, mais plus généralement, en fait, concernant les échouages.
Alors, ça dépend des espèces, encore une fois. Ça va dépendre des espèces. Il y a des espèces qui vont être probablement plus affectées par des sonars. Et c'est quelque chose qui est très difficile, on va dire, à diagnostiquer sur le terrain. Une fois que même l'animal, on va dire, est retrouvé échoué, il faut faire des examens qui sont assez compliqués et très rapidement. Sinon, donc c'est difficile à vraiment savoir ici.
Est-ce que la pollution, on va dire, de la mer, peut justement engendrer des échouages d'animaux comme ceci?
Dans quelle pollution?
Une pollution, je sais pas moi, une pollution chimique ou des choses comme ça. Est-ce qu'on a déjà vu ça?
Sur des mammifères marins, en pollution chimique, je ne sais pas, en toute honnêteté. La pollution, on peut voir des traces, on peut retrouver des polluants dans les organes des animaux.
Oui, on avait eu une
prélèvement sur les autopsies. Donc moi j'ai des collègues qui travaillent sur les polluants et
on a eu une chercheuse justement qui avait analysé des échantillons de dauphins justement sur les côtes bretonnes et qui étaient alors les dauphins étaient en bonne santé puisque les échantillons se faisaient vraiment sur des animaux en bonne santé, enfin apparemment en bonne santé, mais il y avait quand même des taux très élevés de certains polluants.
Et voilà, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup Mathieu.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Bonne journée à vous. Merci.
Bonne journée, au revoir.
Au revoir.
Et on va revenir dans un instant, Laetitia, il est 7h46 et nous aurons avec nous Cédric Briand. Alors Cédric Briand, c'est qui? Eh bien, c'est l'éleveur et le propriétaire de la star du Salon de l'Agriculture.
Voilà. C'est une vache, hein.
C'est une vache.
Précise.
Précisons-le. Et elle va être à quelques dizaines de mètres de nos studios. Pas maintenant. Hein. Là, elle est en train de se faire belle, j'imagine. Mais on va poser la question justement à Cédric. Comment il prépare la star du Salon de l'Agriculture? Et puis le 32-16 à votre disposition, bien sûr. Hein, 32-16 ou animaux@rmc.fr. Laetitia m'accompagne encore pendant un petit quart d'heure sur RMC. À tout de suite.
RMC, 6h-8h. Vos animaux. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlera.
C'est le retour du week-end des experts, les animaux sur RMC. Comme chaque dimanche avec notre vétérinaire Laetitia Barlera, notre véto qui sait.
Véto, oui.
Bravo.
Je l'ai dit.
Et dans un quart d'heure, on retrouvera Jean-Luc Moreau pour l'automobile. Laetitia, on va s'intéresser maintenant à la star du Salon de l'Agriculture.
Et oui, le salon qui débute le week-end prochain à Paris. Et nous sommes avec Cédric Briand qui est éleveur et propriétaire de Fine. Cédric, bonjour.
Bonjour.
À tous.
Merci d'être avec nous. Alors, votre vache a été choisie, elle est l'égérie du salon. Alors, elle est de race bretonne pinoire. Alors, c'est une race qui est très peu connue. Pouvez-vous nous la décrire?
Alors, c'est une vache pinoire, comme l'oiseau.
Comme l'oiseau, d'accord.
Blanc et noir.
Blanc et noir.
Pas le pi qui est noir. Donc je le précise à chaque fois.
Ah oui, non, c'est vrai.
Oh ben j'y pensais pas, hein, voyez.
Eh ben oui.
Elle a le pi de quelle couleur alors, s'il n'est pas noir?
Le pi de couleur plutôt, blanche. On va dire, peau, avec un peu de poil. Et puis
d'accord.
Des petites taches noires dessus, mais ça c'est...
Oui, normal quoi.
C'est sa robe qui est pi noire. Donc c'est la plus petite race de vache en France.
Combien au garrot?
1m17, 1m15, 1m17 au garrot.
Oh, c'est petit comme vache.
Voilà, c'est très petit. Donc, des cornes plutôt en lyre. Donc, imaginez des guidons de vélo avec une pointe qui remonte vers le haut.
Oui, sympa.
Voilà, le cœur sur un petit cœur blanc sur le front.
Un cœur blanc sur le
mignon.
Front.
C'est mignon. Hein.
Oui.
Non, c'est une tache blanche, des fois en forme de cœur. Donc, on s'amuse
avec ce
côté-là.
Oui.
Une écharpe blanche, alors, au passage des sangles, alors derrière... les pattes avant, hein, le long du corps.
Oui.
Elle a plus ou moins marqué selon l'animal. Hein, ça peut être plus blanc que noir. Ah voilà.
Alors vous éduquez, vous élevez depuis 10 ans ces vaches, enfin ces bretonnes pinoires. Qu'est-ce qui vous a plu chez elles?
Qu'est-ce qui m'a plu chez moi? Enfin, en fait, quand l'idée de m'installer, de valoriser, de sauvegarder la biodiversité, c'était ça mon premier but, sauvegarder la biodiversité, y participer et en pouvoir en vivre. Pas seulement de se dire qu'on peut mettre les animaux dans un musée et puis on s'en débarrasse. L'idée, c'était de montrer qu'on peut en vivre. Alors, étant dans l'ouest de la France et en Bretagne, je me suis dit que c'était évident que la race la plus cohérente allait forcément être la bretonne pinoire.
Oui, mais enfin, c'est une petite race qui n'est pas super productive par rapport à une Holstein ou par rapport à d'autres races plus spécifiques en viande ou en lait, comme on dit. Quel est l'intérêt de cette race, justement?
Eh ben, c'est une race qui est, moi, pour moi, c'est une vache qui est autonome et économe. C'est-à-dire qu'elle se contente de peu, mais pour produire un lait très riche et une viande très savoureuse. Et c'est ça qui est important.
Est-ce qu'il y a des spécialités locales avec son lait?
Alors, il y a une spécialité locale que l'on fait, qui est le gros lait. Alors, on appelle ça du couel, qui est un lait fermenté de la famille des yaourts.
Oui.
C'est vraiment une recette traditionnelle qui se faisait avec la bretonne pinoire. Et, après, c'est le beurre, hein, le plus connu chez les Bretons,
oui.
Puisqu'on les appelait les vaches à beurre, les races bretonnes.
Ah, donc ça veut dire qu'elle a un lait très riche.
Et voilà, elle a un lait très riche en matière grasse, tout à fait.
Parfumé aussi, j'imagine.
À parfumer à l'herbe.
Eh oui.
Ah. Et ben, du coup, vous faites quoi? Vous faites de la vente locale? Comment vous valorisez cette race?
En fait, cette race qui n'a pas correspondu à un modèle d'une époque.
Elle a failli disparaître hein, quand même, voilà. La race. Hein. Voilà. Dans les années 70, il n'y en avait presque plus.
Il n'y en avait quasiment plus. Donc ça a été le premier plan de sauvegarde d'une race bovine en France, en 1976 d'ailleurs.
Oui.
Donc c'est les 40 ans cette année du plan de sauvegarde. Mais ce qui a permis de la sauver, c'est que les éleveurs qui ont pratiqué cet élevage se sont dit, de toute façon, elle ne correspond pas au modèle. Eh bien, on va en inventer un autre. Nous, on va faire de la vente directe, transformer son lait, plutôt en agriculture biologique. Et c'est ça qui a permis de développer la race et d'aujourd'hui d'arriver à 2500 vaches.
Et vous vendez en local, c'est ça?
Nous, on vend tout en local. On vend 45% du chiffre d'affaires est fait à la ferme.
Mmh.
45% du chiffre d'affaires de l'autre 45% est fait en AMAP.
Mmh.
Et 10% avec les restaurateurs.
D'accord. Alors, parlez-nous de Fine maintenant.
Oui, quand même, parce que là, à une semaine de ce grand rendez-vous qu'est le Salon de l'Agriculture, j'imagine que vous devez la préparer, non?
Mais d'abord, comment elle a été choisie? Parce que est-ce qu'il y a un casting de vache?
Ah.
C'est vrai. Parce qu'elle est sur l'affiche quand même. Donc,
voilà, c'est pas le casting de Miss Univers, évidemment. On est bien d'accord.
Bah là, vous seriez venu, Cédric, avec Miss Univers.
Forcément.
Ça aurait été plus et puis en plus, ça aurait été plus simple. Hein.
Peut-être. Comment elle a été choisie? Alors, comment la race bretonne pinoire a candidaté pour être
race
à l'honneur au salon.
Donc, il y a d'autres candidats, oui. Mmh.
Voilà, donc le Salon de l'Agriculture a choisi la bretonne pinoire et nous a dit, écoutez, vous devez nous choisir une vache qui sera l'égérie et un porte-parole. Donc au niveau du conseil d'administration, on a décidé que c'était moi qui allais être le porte-parole. Et donc...
c'est vous qui avez choisi Fine, alors?
Et donc du coup, c'est pas moi qui l'ai choisi parce que j'ai décidé que... au niveau du conseil d'administration, on allait tous collectivement venir choisir la vache dans notre troupeau.
Oui.
Et donc, chacun a pris une feuille, un crayon, est rentré dans le champ et a choisi la plus belle vache du troupeau.
Non, elle a eu la meilleure note.
Et voilà.
Et pourquoi? Parce qu'elle, c'est la plus belle?
Alors, d'une part, parce qu'elle avait toutes les qualités de la race.
Oui.
On avait nos critères en particulier.
Mm-hmm.
Donc ça, c'était entre nous. Et puis, elle avait cette prestance, ce port de tête, cette démarche qui faisait qu'on s'est dit, voilà, elle va jouer le rôle, forcément.
Et là, son caractère est comment?
C'est un caractère, c'est ce qu'elle veut, hein, Fine, il n'y a pas de souci. C'est une bretonne, hein, quand elle n'a pas envie.
C'est un peu chat, quoi. Un peu chat indépendante.
Voilà, mais en même temps, c'est vraiment un animal super, super intelligent qui tout de suite a bien compris... le rôle qu'on voulait lui faire jouer et donc très vite qui s'est approprié
son statut de star.
Vous savez, alors je suis sur le site du Salon de l'Agriculture, il y a les traits de personnalité de Fine quand même. C'est bien marketé leur truc, hein, c'est pas mal. Alors elle est discrète, déterminée, j'ai l'impression de lire un CV, hein. Discrète, déterminée, fière, meneuse et surtout gourmande.
Eh ben oui, c'est la chef du troupeau, hein, c'est pas en plus c'est pas une légende. je le dis souvent, c'est vraiment la chef bienveillante, quoi. Elle a pas besoin de se battre avec les autres, hein, si pour être la chef. Non, pas du tout. Elle s'impose naturellement.
Alors, est-ce que c'est la première fois qu'elle vient au salon?
C'est la première fois, Fine, c'est la première fois.
Ah, ça va pas être difficile. Comment vous la préparez? Parce qu'il y a du bruit, il y a, enfin.
Ouais. Et puis ça lui change quand même.
Ça va changer quand même là.
Bah oui, c'est pas son environnement naturel, ça on est bien d'accord. Mmh. Ça c'est une évidence. Alors comment on la prépare? C'est vrai que nous régulièrement, comme on a la vente à la ferme, par exemple, quand on a tous les clients qui viennent en même temps dans la cour de la ferme avec les voitures, les enfants, je la sors avec le licol, on la promène, les gens viennent la caresser, et après elle retourne à sa place. Comme ça, elle a son petit entraînement régulier.
Mais vous savez qu'il y a beaucoup de visiteurs et surtout d'hommes politiques en campagne qui viendront faire un selfie avec Fine.
Oui.
Elle est prête là pour faire les selfies?
Elle est sans doute plus près que les éleveurs. Elle est plus près, ça c'est évident. Je pense qu'elle va pas faire la différence entre un candidat. Je pense que elle est prête, il n'y a pas de souci.
Mais le fait que d'un coup cet animal se retrouve donc dans un environnement qu'il ne connaît pas, avec des milliers de personnes qui vont vouloir
la caresser,
voilà, etc. C'est pas stressant pour l'animal malgré tout, Cédric?
Ce qui est important, c'est que les éleveurs soient toujours présents.
D'accord. Mais qu'est-ce qui est le plus stressant?
Vous êtes un peu leur point, voilà. Ils se raccrochent à vous, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vraiment, le maître et son chien, c'est important d'avoir cette relation entre l'éleveur et l'animal. Donc l'éleveur doit être en permanence présent près de ses animaux. Et voilà, et si on sent que vraiment l'animal est un peu là, on le prend, on le fait marcher, prévu au salon, il n'y a aucun problème, on peut aller en plus à l'extérieur des halls s'il faut brosser, trier un petit peu l'animal.
Oui, tout est prévu en fait, c'est ça?
Tout est prévu.
Et d'accord. Tous les jours elle va être brossée?
Ah oui, tous les matins, après la traite,
la toilette,
la douche, le shampoing, le brossage. Et puis comme ça, ça leur fait du bien aux animaux, ça les revigore un petit peu.
Oui, c'est un bon massage aussi. Hein.
Bien sûr.
Quand vous dites, quand on lit sur le site donc du Salon d'Agriculture qu'elle est gourmande, ça veut dire quoi là? Vous allez.
C'est quoi son péché mignon?
Son péché mignon, c'est quoi? C'est l'herbe ou elle aime autre chose?
Ah, elle adore l'herbe parce qu'elle nourrit nous à 90% à l'herbe. Mais ce qu'elle aime bien aussi, c'est on produit des céréales sur l'exploitation. Donc ce qu'on appelle du métail, c'est du mélange des vieilles variétés de céréales qui leur servent avec le foin en fait pendant l'hiver. On donne ça pendant l'hiver avec le foin pour qu'elle puisse quand même se maintenir en production laitière.
D'accord.
Et évidemment, c'est un petit peu, c'est comme les bonbons pour les enfants. Hein.
C'est son dessert à elle.
Voilà. Donc,
Cédric, en tout cas.
Quand elle voit le seau, elle lève la tête.
C'est ce qui se passe.
Bon.
Cédric, on vous souhaite un merveilleux salon d'agriculture avec Fine.
Bon courage aussi, parce que c'est long quand même, 10 jours en salon, mais voilà, vous allez être, elle va être très photographiée.
Voilà.
Je pense. Bon.
Très bon salon, Cédric. Et merci pour votre temps. Hein.
Merci.
À bientôt.
Merci à vous.
Merci. Bon dimanche et bon salon. Merci. Au revoir.
Voilà, ça donne envie de rencontrer Fine, qui est déjà une star alors qu'elle n'est pas encore, que le salon de l'agriculture n'a pas commencé.
Voilà, il commence samedi prochain.
Oui, on en reparlera, bien évidemment. Sûr. Laetitia, on va se quitter avec notre vidéo LOLCAT de ce dimanche. Alors, c'est pas une vidéo LOLCAT, c'est une vidéo assez étonnante.
Ah oui.
C'est une vidéo, en fait, d'une caméra de surveillance.
D'un chenil. D'un refuge.
Et là, qu'est-ce qui se passe?
On a un husky qui est enfermé
dans sa cage.
Dans sa grande cage. Et puis on le voit quand même, la caméra voit qu'il arrive à ouvrir la porte de la cage.
Donc il s'échappe de sa cage.
Mais après il a l'idée de faire échapper ses compagnons, c'est-à-dire les autres chiens qui sont dans les cages.
Il va ouvrir les cages de ses autres compagnons. C'est étonnant comme vidéo.
Ouais.
Non, mais on se dit, il y a quelque chose, quoi. Il y a une complicité qui se crée entre ces animaux. À retrouver donc sur la page Facebook de vos animaux sur RMC. Et Laetitia, on se retrouvera bien sûr dimanche prochain.
Et oui, avec un spécial salon de l'agriculture.
Évidemment.
Bien sûr, on ne peut pas passer à côté. On ne peut pas passer à côté. Je vous souhaite un très bon dimanche, une bonne semaine. Je vous embrasse.
Et dans un instant, c'est Jean-Luc Moreau qui me rejoint. Après la météo et les infos, à tout de suite.
Retrouvez le week-end des experts en podcast sur rmc.fr.